Gloire à Dieu. Il est bon de louer le Seigneur, c'est ce pourquoi on a été créé. C'est pour le louer, vous voyez, le chant, la musique, tout ça. On en a fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais à la base, c'est fait pour louer Dieu uniquement. C'est pour ça que Dieu a créé tout ça et nos cordes vocales, entre autres. On va venir sur la dixième étude sur le revenir au fondement, sur le thème de revenir au fondement. Ça va? Vous suivez? Vous avez bûché par cœur toutes les neuf études qui précèdent, je suis sûr. On va juste faire quelques rappels de la deuxième partie de l'étude. La première partie de l'étude, on s'est appuyé sur le livre de Néhémie, je vous rappelle. Et là, on s'appuie sur le livre des Actes des Apôtres. Et donc, alors c'est très gênant parce que j'ai pas le retour là-bas devant. C'est normal? C'est pas grave. S'il n'y est pas, c'est pas grave. Je vais essayer de regarder dans le miroir de la nurserie. Donc on va faire quelques rappels ce matin, et donc rappeler que c'est dans le livre des Actes des Apôtres qu'on s'est dirigé dans la deuxième partie de cette étude, et on a vu le rôle indispensable du Saint-Esprit. Quand on parle du livre des Actes des Apôtres, c'est difficile de parler d'autre chose en premier lieu. Bien sûr, on peut parler de beaucoup de choses, on va le voir, mais la première chose, l'acte fondateur du livre des Actes des Apôtres, c'est la Pentecôte. Merci, super. Bravo à la technique, ils s'en sortent toujours. On a vu que d'abord, le don du Saint-Esprit qui a été accordé à la Pentecôte, c'est une promesse qui a été inscrite dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs prophéties qui avaient annoncé qu'un jour, Dieu répandrait son esprit sur les hommes. Ça s'est passé le jour de la Pentecôte et ça continue encore aujourd'hui. Amen. On a vu que c'est une promesse qui aura des effets visibles. Et on voit que dès la Pentecôte, il y a des effets visibles, puisqu'il y a 3000 conversions dès la première prédication. Et puis il y a également des prodiges, des miracles. Lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est passionnant. C'est le départ de l'Église. Donc on a vu que c'était une promesse qui était accomplie et qui doit être vraie pour chacune de nos vies. Et ensuite, on a vu que cet accomplissement de la promesse, il est constamment renouvelé. Ne regardons pas en arrière la Pentecôte en disant waouh, c'était magnifique ce qu'ils ont vécu, ou ne regardons pas en arrière les moments où on a été visité par le Saint-Esprit en disant oh, c'était magnifique, mais on est appelé à vivre cela constamment, ce renouvellement. Amen. Et on avait terminé avec trois points que je vais rappeler. D'abord, prendre conscience que seule la lumière de Christ en nous peut faire de nous des témoins. D'accord? Comment puis-je être un témoin de Christ, moi, misérable que je suis? Je parle que pour moi, vous êtes des gens bien, mais moi, j'ai du mal. Et en fait, si le Saint-Esprit vient me remplir, alors je vais refléter la lumière de Christ, on l'a dit tout à l'heure pendant les chants. Deuxième chose, on avait dit décider de ne plus passer à côté d'une effusion du Saint-Esprit. Et là, silence. Savez-vous que quand on est réunis le dimanche matin et qu'on chante souffle, souffle, on doit vouloir cette effusion du Saint-Esprit. Et là, moi, j'ai l'impression que il n'y a pas ça. Hein. C'est pas une impression, c'est une certitude. Il n'y a pas ça en fait. Dès qu'on dit, allez, on va chercher Saint-Esprit, bouh, comme par hasard, toutes les bouches sont cadenassées. Alors que c'est tellement important. On a besoin, les frères et sœurs, de cette visitation du Saint-Esprit. Et n'attendez pas le culte. N'attendez pas le culte. Chaque jour, dans vos cultes personnels, vous devez demander cette effusion du Saint-Esprit. Amen. Et puis on a vu qu'on prenait la décision d'être comme les vierges sages, en référence à la parabole des dix vierges, en ayant toujours de l'huile dans nos lampes, pour ne pas être surpris le jour où l'époux va venir. Parce que cette parabole dit qu'il y avait 10 vierges qui attendaient la venue de l'époux, il y en avait 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe, 5 qui avaient été négligentes et qui n'avaient pas fait de réserve. Et au moment où l'époux est arrivé, ils n'avaient pas d'huile, donc ils étaient partis en chercher, et donc ils n'étaient pas là au moment où il fallait. Et nous, on veut veiller sur nos vies parce que ça fait référence, cette parabole, à l'enlèvement de l'Église, où Jésus va venir chercher son Église et où certains seront pas pris. Parce qu'ils seront occupés à autre chose, ou parce qu'ils n'auront pas d'huile dans leur lampe. J'aimerais, aborder un autre fondement de la foi chrétienne, de la doctrine biblique. C'est le fondement de la croix. La première prédication prêchée et qui va fonder l'Église a pour thème la croix. Vous en êtes rendu compte ou pas? Lorsque les disciples sont visités par le Saint-Esprit, ça fait tellement de bruit, c'est un bruit qui vient d'en haut, hein. Attention, lisez Actes chapitre 2, le bruit vient d'en haut, hein. Ce n'est pas les instruments de musique où on fait du bruit pour... Non, c'est un bruit qui vient d'en haut. C'est-à-dire la visitation du Saint-Esprit faisait que les gens ils s'exprimaient avec une expression extraordinaire. Eh oui, il est parlé de murs qui tremblent. Vous savez que le son, ça fait trembler. Hein. Moi, j'ai un caisson de basse dans ma salle à manger. Quand je mets la musique qui a un peu trop de basse, on entend le vaisselier qui fait... Ah, j'aimerais tant que les murs tremblent. Au son des enfants de Dieu qui louent l'Éternel. Par la visitation de l'Esprit, attention. Par la visitation de l'Esprit. Alléluia. Et donc, tellement il y avait de bruit, ben, la foule, vous savez, c'était le jour de la Pentecôte, donc le jour de la Pentecôte, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde à Jérusalem. Et c'est pas par hasard que le Seigneur a répandu l'Esprit ce jour-là. Et donc, Pierre va sortir devant la foule, et la foule s'interroge, il y en a qui disent qu'ils sont... Parce qu'ils parlent dans des langues nouvelles, donc... Comprend pas trop, ils sont bourrés, ils ont bu un coup de trop, mais certains s'approchent, ils sont touchés. Vous savez pourquoi ils sont touchés? Parce qu'ils les entendent. Ils entendent dire des merveilles de Dieu dans leur langue. Alors que les disciples qui étaient réunis ne connaissaient pas du tout les langues des étrangers qui étaient là à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Mais par le Saint-Esprit, ils ont parlé ces langues-là. Et les gens, ils ont été scotchés. Donc certains se moquaient. Ou disait « bouh !» et d'autres ont été interpellés. C'est toujours comme ça quand on prêche l'Évangile. Il ne faut pas vous étonner que certains se moquent ou n'adhèrent pas. C'est toujours comme ça. Mais prêchons l'Évangile parce qu'il y en a toujours qui sont touchés aussi. Et là, Pierre va profiter de ce moment. Pierre qui a renié Jésus. Non mais vous vous rendez compte? Pierre qui a renié Jésus. Ils sont 120 dans la chambre haute. Sur 120, qui Dieu choisit pour aller parler, c'est Pierre. Quelle grâce infinie Dieu exerce envers nous, mes frères et sœurs. Quelle grâce infinie. Pierre s'est repenti, il a dit qu'il a pleuré amèrement. Dieu a vu sa repentance et il l'a pardonné. Entièrement pardonné. Et il lui donne la possibilité d'être une lumière pour son nom. Amen. Gloire à Dieu. Et Pierre va s'avancer, il va prêcher sur quoi? Il va prêcher sur la croix. On lit ensemble, Actes chapitre 2, verset 22. Et 24, jusqu'à 24. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et puis un peu plus loin, au verset 32-33, Pierre dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Est-ce qu'il pouvait le dire, Pierre? Allô? Est-ce que Pierre pouvait dire « Nous sommes témoins que Jésus est ressuscité » Ben oui, il l'a vu après sa mort. Il l'a côtoyé, il n'a pas été tout seul. Tous les disciples l'ont vu, et les femmes qui étaient avec eux aussi. Donc il peut témoigner que Jésus, ok, il est mort, il l'a vu aussi, mais il est ressuscité. Amen. Et puis il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il donne l'explication de ceux qui interrogent tous les gens qui étaient là. Et puis au verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Pourquoi la croix est un fondement? On va le voir en trois points ce matin. D'abord, la croix, c'est le message central de la Bible. Ensuite, c'est le message central des apôtres et de l'Église. Et puis, nous verrons en terminant que c'est le seul message qui parle du moyen de salut pour l'homme. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Ok ? Premier point, c'est le message central de la Bible. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Ancien, Nouveau Testament, nous parle de Jésus et de la croix. Jésus, c'est le personnage principal. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous êtes à l'école, on vous dit, lisez le livre, c'est qui le personnage principal ? Qui est le personnage principal de la Bible ? Jésus. Ça paraît évident quand on lit le Nouveau Testament, ça paraît moins évident quand on lit, je vais y arriver, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a l'impression qu'il n'est pas parlé de Jésus. Jésus, il arrive là, à Noël, pup. Sauf que Jésus, il est là depuis toujours, puisqu'il est Dieu. Il est même là à la création. Et dès la Genèse, alors que l'homme et la femme ont chuté lamentablement en désobéissant à Dieu, et que la malédiction est prononcée sur eux, il y a quand même une chose qui est dite, et on va lire dans Genèse 3:15. Déjà, à peine la chute et la désobéissance a eu lieu, que Dieu a déjà prévu le moyen de salut. Et il est dit, alors bien sûr, il faut connaître les Écritures et connaître la Bible pour comprendre ce qu'il y a écrit dans cette phrase. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » C'est-à-dire que les deux vont s'opposer. La femme va donner naissance à toute l'humanité et en particulier au peuple d'Israël. Et puis, par conséquence à Jésus, elle est dans la lignée, elle est une ancêtre. Jésus va venir et il est dit, la postérité de la femme écrasera ta tête et toi tu lui blesseras le talon. Donc là, il est fait référence clairement à la croix. C'est à la croix que la Bible nous dit Jésus a pris autorité sur toutes les dominations et les puissances. Donc la postérité du diable. Ok. Un autre texte qui parle un peu plus, c'est dans le psaume 22, c'est un psaume de David, versets 17 à 19, où David s'exprime, et vous savez que dans les chants qu'il faisait, ou dans les prophéties qu'il y a dans chaque livre prophétique de la Bible, il y a des choses que ces hommes disent et dont ils ne perçoivent pas la dimension. Et il y a beaucoup de textes, on va le voir avec Ésaïe en suivant. Et là, David parle de choses incroyablement précises qui vont se passer à la croix. Il dit ceci, « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » On peut dire que c'est ce que Jésus a vécu, hein, avec tous ces gens qui lui crachaient dessus, qui se moquaient de lui, il a été fouetté, etc. Et il dit même, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est écrit dans la Bible, ça. Vous savez combien de temps il a vécu avant Jésus-Christ, David ? Environ 1000 ans. Vous cherchez parfois des gens qui disent l'avenir, etc. Vous faites fausse route. Là, l'endroit où on peut dire que ce qui est dit sur l'avenir est vrai, c'est la Bible. Et beaucoup de prophéties comme ça s'accomplissent. Je pourrais compter tous mes os. Donc aucun des os de Jésus n'a été brisé, alors que normalement on le faisait au crucifié. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Exactement ce qui s'est passé à la croix également. On lit dans Ésaïe 53. Il est un peu moins fort, Ésaïe, que David, puisque lui, il était là que 7 siècles avant Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Cependant, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il décrit exactement ce qui se passe au niveau spirituel à la croix. Parce que la croix, on peut le voir comme quelque chose, il y a beaucoup de gens, il y a même des gens dans certains pays qui refont le chemin de croix, presque ils se crucifieraient pour comprendre ce qu'a vécu Christ. Mais en fait, ce qui est important dans la croix, c'est la dimension spirituelle. Quelqu'un devait mourir à cause de nos péchés. Et celui qui devait mourir, ben c'est moi. Parce que j'ai péché, je devais mourir, je devais être exécuté. Je n'ai plus droit à la vie à cause de mon péché. Mais Jésus, lui, vient et il prend notre place à tous. Il dit à Dieu, non, ne les tue pas, c'est moi qui vais aller prendre le châtiment. C'est ce que dit Ésaïe, le châtiment est tombé sur lui. Le châtiment qui aujourd'hui me donne la paix. Si je peux être en paix avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Et il a pris le châtiment à ma place. Et c'est ce qui fait que je suis pur. Ce n'est pas que je suis quelqu'un de bien. Ce n'est pas que je ne fais plus jamais d'erreur, que je n'ai plus jamais une mauvaise pensée. J'aimerais pouvoir vous dire ça ce matin, mais ce n'est pas le cas. Mais je peux dire que je suis sauvé parce que Jésus est mort à ma place. Et que son sang a coulé pour laver et purifier tous mes péchés. Amen. Dans l'Ancien Testament, donc on a vu les prophéties, on va voir la typologie dans l'Ancien Testament. La typologie, c'est-à-dire il y a des personnages qu'on appelle des types de Christ. Des personnages qui sont là, on regarde leur vie, etc. Puis si on ne fait pas attention, on ne se rend pas compte. Mais en fait, si on regarde bien, on dit « Waouh !» Mais ce qu'ils font là, ça annonce clairement ce qui va se passer avec Jésus. Le premier exemple le plus criant, c'est celui d'Abraham et Isaac, vous connaissez ? Où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Non mais qu'est-ce qui lui a pris à Dieu ? Alors qu'il dit clairement qu'il ne faut pas faire passer les enfants par le feu. C'est une chose qu'il a dénoncée avant qu'Israël rentre dans le pays promis. Ce n'est pas sa volonté, pourtant il le demande à Abraham. Et Abraham, qui est un homme de foi et d'obéissance, va s'exécuter. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il pensait que Dieu allait ressusciter son fils. Donc il ne s'inquiétait pas, puisque son fils était le fils de la promesse, fils de la postérité. Il disait, bon, je peux le tuer. De toute façon, il va se passer quelque chose, puisque c'est lui qui doit donner toute la descendance. Donc il n'était pas inquiet par rapport à ça. Après, je vous laisse imaginer ce que ça fait de vivre cette expérience, même si on pense que Dieu va ressusciter après. Et Abraham s'exécute. Isaac ne se rebelle pas. Il comprend, Isaac, ce qui se passe. Il aurait pu se défendre. Il se laisse faire. C'est l'image de Dieu qui va offrir son fils. Et bien sûr, un ange va retenir la main d'Abraham pour qu'il ne tue pas son fils. Mais sur la croix, Dieu ne retiendra pas sa main. Et son fils va prendre ses péchés sur nous. Deuxième type, c'est Joseph. Joseph qui est vendu par ses frères. J'ai pris un exemple. Il y a des dizaines d'exemples de la vie de Joseph qui nous montrent Jésus-Christ. Mais juste celui-là, vendu par ses frères. Ce sont les propres frères, les juifs de l'époque. Hein, je ne mets pas les juifs tous dans le même panier, etc. Mais à l'époque, et en particulier les religieux juifs, qui ont rejeté celui qui était venu comme le Messie. Et Joseph a dû souffrir de ça énormément, d'être vendu par ses frères. Et Jésus a dû souffrir que les siens ne l'aient pas reconnu. Ensuite, il y a Moïse. Moïse n'est-il pas un type de Jésus-Christ ? Lui qui sort le peuple d'Israël de l'esclavage du péché, qui le conduit vers la terre promise. N'est-ce pas ce que Jésus fait ? Il est venu, il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous conduit vers le paradis. Amen. Et puis le tabernacle. Alors je vous ai mis une photo générale parce que là le tabernacle, on pourrait en parler des heures. Mais tout dans le tabernacle nous parle de Jésus. Le tabernacle, c'est cette tente qui a été dressée au milieu des enfants d'Israël pendant leur traversée du désert. Et puis petit à petit après, bien, David a élaboré les plans et Salomon a construit le temple. Donc ce n'était plus une tente après, c'était le temple. Ce fameux temple dont il reste encore un mur à Jérusalem, le mur des Lamentations. Ce temple où on venait, on amenait les sacrifices. Les agneaux, purs, sans tache, image de Jésus-Christ. Le lieu saint où il y a le chandelier qui représente la lumière de Christ, etc. On pourrait dire beaucoup de choses sur le tabernacle. Et puis aussi dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est Jésus lui-même qui va commencer à parler de sa propre mort. Hein, il va l'annoncer aux disciples, même Pierre ne sera pas d'accord, comme d'habitude. Non, il n'est pas question que ça t'arrive. Et Jésus va être virulent, il va lui dire, retire-toi de moi, Satan. Au moment où il dit ça. Parce que Jésus sait qu'il doit passer par la croix. Même si c'est pas, ça fait plaisir, ça n'a pas fait plaisir à son entourage, ça a fait souffrir son entourage. Lui-même, on le sait, à Gethsémané, a versé des gouttes de sueur et même de sang, tellement l'angoisse était forte, mais Jésus savait qu'il devait le faire. Donc dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, après dans les prédications, les livres, tout le Nouveau Testament nous parle de la croix et de Jésus, y compris l'Apocalypse. Donc on a commencé à la Genèse et on arrive à l'Apocalypse où une bonne trentaine de fois l'expression « agneau » est utilisée. Et quand on parle de Jésus en tant qu'agneau, on parle de Jésus qui s'est sacrifié. D'accord ? Digne est l'agneau, plusieurs fois, on entend cela retentir dans le ciel, dans les lignes de l'Apocalypse. Et puis il nous est parlé des noces de l'agneau. Amen. Deuxième raison pour laquelle c'est un fondement, eh bien, c'est que c'est le message des apôtres et de l'Église. La mission des apôtres, de ceux qui sont envoyés pour propager la bonne nouvelle, c'est de parler de la croix, du sacrifice de Jésus, de sa résurrection et du salut qu'il nous offre. Amen. On appelle ça, nous, dans notre jargon, la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est ça. Prêcher la bonne nouvelle, c'est pas dire « Ah, tu vas être heureux, tu vas avoir du fric, tu vas... » Prêcher la bonne nouvelle, c'est dire « Tu es sauvé parce que Jésus est mort à ta place sur la croix. » On revient à la prédication de Pierre lors de la Pentecôte. « Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Je fais juste une remarque ici. Il n'y a pas de puissance dans l'œuvre de la croix s'il n'y a pas la résurrection. On est d'accord avec ça ? Ceux qui pensent que Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité, ben, c'est un bien triste message. Un innocent est mort pour rien. C'est triste. Nous savons qu'un innocent est mort et on trouve que c'est triste. Mais on sait pourquoi. Ce n'est pas pour rien. Il est mort parce que nous, les coupables, on devait être lavés et purifiés. Amen. Pierre va évoquer la croix aussi dans ses épîtres. Et il y a un exemple dans le chapitre 2 de la première épître. On lit ensemble, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » La croix, c'est aussi un exemple à suivre. Non pas dans le sens où on doit aller nous monter sur une croix et se faire crucifier, mais dans le sens où on doit, Jésus le dit, « Celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même. » Et notre croix... Ce n'est pas nos épreuves. Des fois, il y a des gens, « Oh là là, j'ai une épreuve, pasteur, je suis en train de porter ma croix. » Non, non, non. Ce n'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est renoncer. C'est renoncer à ce que vous avez de plus cher. C'est ça, porter sa croix. OK ? Peut-être les épreuves vous conduiront à le faire. Mais porter sa croix, c'est ça. Et on nous invite à suivre sa trace. « Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. » Remarquez, vous avez été guéris, c'est fait. Gloire à Dieu. Paul en parle également dans plusieurs passages, on va le voir tout à l'heure dans la dernière partie, notamment dans l'Épître aux Romains. Mais avant de dire cela, j'aimerais lire deux textes dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, où Paul parle de ce caractère central du message de la croix. Voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, 22-24. « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juif que grec. Amen. Et un peu plus loin au chapitre 2, au verset 1 et 2, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. C'est pour ça qu'en introduction de ce culte, tout à l'heure, j'ai dit, nous ne sommes pas là pour prêcher une doctrine, pour dire, nous les évangéliques ou nous les assemblées de Dieu, bien sûr, on est organisé en église, etc. On a des noms, des dénominations, ok. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que Jésus est votre sauveur. Approchez-vous de Jésus. Donnez-lui votre vie. Suivez-le et ne revenez plus dans cette église, ce n'est pas grave. Si vous le suivez, c'est, moi ce qui m'importe, ce n'est pas que vous veniez dans l'église. C'est que vous suiviez Jésus. Normalement, si vous suivez Jésus, vous allez venir dans une église. Mais ce n'est pas ça le premier but. Le premier but, c'est s'attacher à Jésus. Amen. Enfin, je termine. Par rapport à ça, justement, je me faisais une réflexion. En fait, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que quand je parle de ma foi aux gens, souvent, je parle de ce que Jésus peut faire pour eux s'ils sont malades, s'ils ont des problèmes, s'ils ont des soucis. Quand je parle de ce que Jésus a fait dans ma vie, souvent je parle des transformations qu'il a opérées, de la manière dont il m'a béni. Mais souvent on oublie de dire qu'il peut, qu'il sauve et qu'il m'a sauvé. Vous n'êtes pas comme moi un peu ? On oublie de dire l'essentiel. Moi, si je suis heureux, oui, ok, Dieu l'a fait, ma vie a changé depuis que je le connais, c'est génial, c'est super de suivre Jésus, mais avant toute chose, le Seigneur, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a purifié de mes péchés. Et c'est ça qui me rend libre aujourd'hui. La culpabilité du péché sur la vie de quelqu'un, c'est terrible. Moi qui suis aumônier de prison, je peux vous le dire, mais comme je le dis toujours aux prisonniers, je dis, mais il n'y a pas que dans la prison qu'il y a des gens mauvais. Hein. Il y en a plein à l'extérieur et moi j'en fais partie. Sans Christ, on est tous misérables. On va le voir tout de suite. Le seul message, troisième point, pourquoi la croix c'est un fondement, c'est le seul message qui parle du moyen de salut pour l'homme. C'est le seul. Cherchez dans toutes les doctrines religieuses, il n'y a pas de message de salut. Il y a un message de bien-être, comment on doit se comporter, etc. Mais le message du salut, la purification des péchés, c'est seulement en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ, c'est le seul. Pourquoi la croix ? Pourquoi la croix ? C'est important de se poser la question. Pourquoi la croix ? Cette croix que Pierre a refusée en disant « Jésus, je veux pas que ça t'arrive, ça. Ça n'arrivera pas. Moi, je vais te défendre. » Bon, on a vu la suite, hein. Mais Pierre ne comprenait pas qu'il fallait la croix pour que nous soyons sauvés, pour que lui il soit sauvé. Dans Romains chapitre 3, versets 10 et 12, ça c'est le point de départ. Si vous ne croyez pas ça, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. La Bible dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. » Attention, intelligence spirituelle, hein. Oh, vous êtes intelligent, ne vous inquiétez pas. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. C'est ça, en fait. Par notre propre chair, par notre propre consistance humaine, on ne cherche pas Dieu. On est tous égarés, tous pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est sévère, hein, comme constat. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et souvent, je parle avec des gens qui me demandent des entretiens, et quand je leur dis qu'ils sont pécheurs, alors là, ils sont déçus. Mais moi, je suis quelqu'un de bien, moi. Je n'ai jamais volé, jamais, j'ai pas commis l'adultère, je suis fidèle à mon conjoint. Alors, ils font toute une liste de choses comme ça, et ils pensent qu'ils sont bien. Mais en fait, être bien, c'est bien plus que ça. Bon, déjà, qui m'explique qu'ils n'ont jamais eu une mauvaise pensée, hein. Ne serait-ce qu'une pensée impure, une mauvaise pensée. Qui peut dire ça ? Personne. On a même parfois des envies de meurtre. À nous qui dirions jamais on ne tuerait quelqu'un. L'homme est corrompu. C'est la base. Et toi aussi. Voilà. C'est pas les autres le sont et moi non. On l'est tous. Et c'est ce qui permet d'aller vers Jésus. Dans Romains chapitre 5, verset 8, regardez ce qu'il est dit. Très important. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des gens bien, Christ est mort pour tous. Je vois qu'il y en a trois qui suivent quand même, qui ont réagi. Alors que nous étions pécheurs, alors qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu, il nous témoigne son amour en nous donnant son Fils pour nous. Amen. Et puis un peu plus loin, chapitre 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc on doit tous mourir à cause du péché, puisqu'on a dit que tous sont pécheurs. Mais, il y a un mais, heureusement, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la grâce, en fait, qui est décrite dans ces versets. D'abord, on était encore pécheurs, pourtant, Dieu nous a aimés. Et c'est la grâce. Quelqu'un qui vous fait la misère une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, vous arrivez à l'aimer encore? Il y en a qui hésitent, ne oh, faites pas les. Eh oh, s'il vous plaît. C'est là qu'on a des idées de meurtre. Combien de fois on a attristé le Seigneur dans notre vie? Est-ce que quelqu'un peut le compter? Moi, je ne peux pas le compter. Et pourtant, il nous aime. C'est un amour inconditionnel. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime même si nous sommes pécheurs. Et il nous regarde au travers du sang de son Fils et il nous voit comme purs. Amen. Quelle grâce! Et l'apôtre Paul dit, le don, c'est le don gratuit. C'est le don gratuit. En fait, dans la tête de l'homme, il y a un problème, c'est qu'on veut toujours payer. Si on a fait une faute, il faut qu'on fasse quelque chose pour se racheter. On veut toujours payer ou on va donner de l'argent à l'église, on va donner pour dire ah, ça va un peu rééquilibrer toutes mes mauvaises choses. Mais non. Mais non. La seule chose qui nous lave, qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. Et c'est gratuit, on n'a rien à payer. Ça a été très cher pour Dieu et pour Jésus. Très cher. Mais pour nous, c'est gratuit. Amen. Quelle grâce Dieu nous fait. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8-9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Par le moyen de la foi. Donc ça veut dire quand même qu'il faut croire à tout ça. Parce que si la grâce est là, que vous n'y croyez pas, qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Et vous partez. Ben, la grâce, elle est là pour vous, mais vous n'en bénéficierez pas. Vous devez croire. Croire à ce message et demander pardon à Dieu pour vos péchés. On le verra dans la prochaine étude qui concernera la repentance. Vous demandez pardon pour vos péchés et vous venez à lui en lui disant, tel que je suis, je viens à toi. Et il est dit que cette grâce, elle ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'Église a véhiculé ce message que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. C'est une hérésie. Bien sûr, c'est intéressant pour l'Église, hein. Si vous donnez de l'argent, vous allez peut-être gagner le salut de votre âme. Si vous donnez de votre temps, si vous faites des choses pour l'Église, vous allez. Mais c'est le discours qui est véhiculé, hein. C'est le discours qui est véhiculé. Vous avez sur les grandes cathédrales les. Des noms inscrits, hein, des grands donateurs. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. La seule chose qui nous sauve, c'est la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. J'aimerais insister en conclusion. J'aimerais insister sur le caractère exclusif de ce message. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que toutes les religions sont bonnes. Il suffit qu'on soit sincère. Et puis Dieu est amour, donc Dieu aime tout le monde. Si je veux être populaire, c'est ce que je vais vous dire. Mais moi, je vais vous dire la vérité. La vérité que je trouve dans les Écritures, pas ma vérité. Le message biblique est clair. J'ai regardé ce que dit Jésus au chapitre 14, verset 6 de l'évangile de Jean. Jésus dit, écoutez bien cette phrase, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui refuse Jésus-Christ ne peut pas venir à Dieu. » À cause de son péché, tout simplement. Je ne vais pas citer de figures religieuses importantes, mais si je me tourne vers elle, elle ne me pardonne pas de mes péchés. Elle ne me pardonne pas de mes péchés, donc elle ne me permet pas de venir devant Dieu. Parce que si je viens devant Dieu avec mon péché, ben je meurs. Je meurs. Il est saint, il est tellement saint, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas supporter le péché. Et si on l'a chanté, je viens vers toi. Je viens dans ta présence. Waouh, mais c'est extraordinaire qu'on puisse faire ça, nous les pécheurs. Mais c'est parce qu'on est lavé et purifié par le sang de Jésus. Amen. Et dans Actes chapitre 4, versets 11 à 12, alors qu'ils sont en train de rendre compte devant les juges de la ville, parce qu'ils ont prêché le message de Jésus, et regardez ce que leur disent Pierre et Jean, je crois que c'est Pierre qui parle à ce moment-là, il dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez », il dit ça aux religieux, « et qui est devenue la principale de l'angle ». Et il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Ok ? Un seul, c'est tout simple, un seul s'est donné en sacrifice. Le seul leader religieux qui a donné sa vie, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'il avait compris, lui, que sans cela, on ne pouvait pas aller vers Dieu. Il avait compris, bien sûr, puisqu'il est Dieu. Et tous les autres, ils sont peut-être bien intentionnés, il y a tout ce que vous voulez. Moi, je ne critique pas les personnes. Mais tout le reste, c'est des systèmes religieux qui n'apportent pas grand-chose. Le seul qui peut apporter quelque chose à nos vies, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas cette église, ce n'est pas le pasteur que je suis, ce n'est pas notre dénomination, ce n'est pas notre courant religieux. Tout ça, c'est du vent. Le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Demandez, courbez vos têtes, fermez les yeux. Peut-être vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire. À vous tenir en prière quelques instants. Parce que c'est important, on vient de parler du message central des Écritures, qui est celui de la croix. Et j'aimerais m'adresser d'abord à quelqu'un parmi nous qui peut-être n'avait jamais entendu, jamais compris les choses comme ça, et qui peut-être a été touché, et qui a envie de dire ce matin, oui, Seigneur, j'ai compris, je suis pécheur, et j'ai besoin de m'approcher de la croix pour que tu me laves et tu me purifies de mes péchés. Faites cette prière dans votre cœur, dites-lui maintenant, faites cette prière dans votre cœur. Seigneur, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir négligé la croix. Ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant et tu peux conduire ma vie maintenant. Seigneur, je veux te suivre. Dites-lui ces paroles. Je laisse quelques instants pour que vous puissiez le dire. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. J'aimerais encourager aussi quelques-uns parmi nous qui peut-être ont oublié. On va, dans quelques instants, observer ce devoir de mémoire que Dieu nous demande en partageant la Sainte Cène. Est-ce que tu n'as pas été oublieux de la croix? Est-ce que tu n'as pas, pendant un temps, cru que tu étais quelqu'un de bien? Toi, le bon chrétien, toi qui juges les autres, qui regarde les autres, et c'est pas comme ça qu'on devrait faire, et c'est comme ça qu'il faudrait faire, et lui, comment il gère sa vie, n'importe quoi, etc. Si tu es dans cette mentalité, tu as oublié la croix. La croix, elle t'amène à l'humilité. La croix, elle te rappelle que tu es pécheur, et que sans Jésus, tu n'es rien. Ton étiquette de chrétien, ton baptême, tout ça, ce n'est rien, s'il n'y a pas la croix. Demande au pardon au Seigneur si tu l'as oublié. Demande-lui pardon simplement et il va te pardonner. Parce que Dieu est bon. Amen. Peut-être on peut demander pardon aussi, et je le fais moi aussi pour si peu souvent parler de ce message de la croix. On devrait le répandre partout, parce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu sur terre, pas pour qu'on ait une belle petite fête à Noël, avec le petit Jésus dans la crèche, mais il est venu pour sauver l'humanité, pour que les hommes n'aillent pas en enfer, mais qu'ils aillent au paradis. Et Jésus-Christ lui-même dira, dans ce même discours où il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », il va dire « Celui qui rejette le Fils, rejette le Père ». Jean chapitre 3, verset 36. « Celui qui rejette le Fils, rejette le Père ». Ne rejette pas Jésus. Ne rejette pas Jésus. Quelles que soient tes origines, peut-être ta religion, tes philosophies, tes doctrines, ne rejette pas Jésus. Mets-le au-dessus de tous les autres. Et mets-le comme le seul moyen d'être sauvé. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est ta parole qui a été annoncée. C'est ton message, le message de l'Évangile. Et Seigneur, nous voulons le faire nôtre. Merci pour les personnes que tu as attirées au salut ce matin. Je crois que tu l'as fait, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous. Merci aussi pour le rappel que tu nous fais. Et pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes oublieux de nature. Et merci pour la Sainte Cène qu'on va partager maintenant, parce qu'elle nous rappelle ce que tu as fait. On s'humilie devant toi, Seigneur. On reconnaît notre état de pécheur, mais en même temps, on se réjouit de ce que par ton sacrifice à la croix, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Et on peut t'appeler Père. Oh, merci, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Amen.